pas au lieu de travailler avec un certain type de public, par exemple, ou de faire de ciblage, et pourtant, on est complètement dans la gestion. À force d'avoir été beaucoup assigné à des assos comme ça qui bricolent, il y a vraiment cet effet de... Pour passer le cap de la professionnalisation et montrer qu'on est des vrais professionnels, il faut être capable, effectivement, de répondre à tous ces indicateurs, etc. Ce qui est hyper dommage, parce que je pense que, et tous mes collègues aussi, on sait déjà ce qu'on va mettre dans les dossiers avant même d'avoir commencé les projets, alors que dans les projets en eux-mêmes, par exemple, je pense à un projet sur la coopération territoriale, je sais déjà exactement quel va être notre rapport et comment est-ce qu'on va en tirer bilan et comment on va répondre aux indicateurs, alors qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est effectivement du domaine de la relation, et ça, on n'aura pas le temps de le capitaliser, parce qu'on va s'attacher effectivement à remplir des indicateurs qu'on n'y qu'une tête, et également dans notre façon de gérer notre temps de travail, quoi. Ça devient un enjeu aussi où chaque heure est comptabilisée dans les fonds européens, je ne sais pas si ça va entre autres avec les fonds européens, mais c'est vraiment heure par heure, tous les agendas, on y passe un temps fou. Ça n'a plus rien à voir avec notre cœur de métier, avec notre objet. Ça, c'est le premier truc qui venait. Le deuxième truc qui venait, c'est sur les droits culturels. Donc, enfin, sur les droits culturels, il me semble que c'est un référentiel. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, moi, j'en parle avec plaisir, si vous voulez, demain, pendant l'apéro, je suis venue avec quelques ressources. Je ne reviens pas là-dessus pour le moment, mais en tout cas, les droits culturels, ça permet de mettre la relation au cœur et d'interroger l'individu et le collectif. Et ça nous interroge aussi beaucoup sur la notion d'indicateur, etc. Donc, on a aussi travaillé avec les pouvoirs publics, notamment en Nouvelle-Aquitaine, sur des règlements administratifs et financiers, enfin, pour essayer de sortir un peu de ces ornières-là et d'écrire les appels à projets d'une autre manière. D'autant plus que c'est ce que vous disiez, hein, on n'a pas du temps, les appels à projets seraient pour répondre à des problématiques qui n'existent pas. Dans le secteur culturel, on parle beaucoup de diagnostic de territoire, etc. Ça n'a ni queue ni tête, en fait. On fait de l'animation de réseau, on travaille avec l'existant, on ne résout pas les problèmes des gens, loin s'en faut. Et j'avais un tout dernier truc à partager. Et ça m'est pensé quand je pensais aux droits culturels et à ce que ça pouvait nous apporter ce référentiel sur ces questions-là. J'ai une amie qui est éducatrice et qui travaille pour une association dont j'avais envie de vous parler qui s'appelle Les Compagnons de la Nuit, qui a été fondée par Pablo Meca, qui était un prêtre ouvrier. C'est une association qui existe encore à Paris et qui a un lieu qui s'appelle La Moquette, où il n'y a aucun accompagnement au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'ils n'accueillent pas les gens pour les aider à monter des dossiers, ils n'ont pas de piste d'hébergement, ils ne font rien de tout ça. Il n'y a absolument aucun accompagnement comme on pourrait l'imaginer dans le cadre du travail social. Et simplement, ça part de l'idée, c'est un lieu qui est ouvert que la nuit tous les chats sont gris et que peu importe, c'est comme à la plage, il n'y a pas trop de différence entre un PDG en maillot de bain et un ouvrier en maillot de bain, mais il y a vraiment cette idée de retisser la relation. Et la première fois où elle en est parlé, moi-même, et je vois à quel point on est tous hyper structurés en fait par ce truc de gestion, j'étais un peu estomaquée. Je me disais, mais vous servez à quoi en fait? Et il a fallu que je refasse ce travail-là à rebours, en fait, pour comprendre à quel point ça devait être très libérateur aussi pour les gens qui étaient accueillis dans ce lieu-là. Voilà pour moi.
J'aimais cette question que tu viens de poser sur vous servez à quoi? Parce qu'en fait, clairement, on est dans des métiers, des structures qui ont du sens, qu'on espère avoir du sens, mais que le sens se perd pour plein de contraintes. Se perd parce qu'on a des financements publics qu'il faut justifier. Se perd parce que finalement, on se retrouve à avoir des professionnels qui ne sont pas là pour les mêmes raisons que celles qu'on aurait imaginées. Se perd pour plein de raisons. Et du coup, le à quoi vous servez, je pense qu'en fait, c'est une des questions que beaucoup de professionnels se posent aujourd'hui. On parle de la santé, mais pas que ça, on parle de la culture, alors là, de notre Covid, etc. Et donc, nous, on avait travaillé beaucoup sur la question de l'évaluation d'impact social, avec un peu ce truc aussi de redonner aux structures du sens et de se repartager du sens commun. Donc, ce qui est. En fait, je suis hyper partagée dans toutes ces réflexions-là, parce que, en même temps, c'est hyper utile quand on est dedans et quand on vit ces démarches-là parce qu'on redonne du sens, parce qu'on se partage entre nous pourquoi on est là, etc., et qu'on recrée, qu'on essaye de retrouver le fond. Et en même temps, eh ben, on est encore sur des dispositifs, même si on ne cherche pas à créer un outil, on est encore sur des méthodologies qui sont classiques, qui puissent être entendues par d'autres, qui puissent être entendues par l'extérieur, et essayer de retranscrire le sens qu'on peut avoir dans nos projets pour d'autres qui ne sont pas dedans. Alors on parle des financeurs, mais c'est normal, les financeurs, ils ont aussi besoin de justifier, enfin, les dépenses publiques, etc. Ils ont aussi besoin d'être justifiés parce que c'est aussi l'argent des contribuables, parce que pour plein de raisons. Et du coup, on est tout, et je pense qu'on sera toujours un peu tendu là sur ça, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans une société qui est régie par la thune, on sera de toute façon soumis à cet équilibre ou déséquilibre entre la question du sens, du cœur et pourquoi nos projets existent et qu'est-ce qu'on veut faire changer ou pas dans la société. Et en même temps, la question de devoir justifier, de devoir être un peu professionnel, de devoir... Et je pense que quels que soient les travaux qu'on a et quelles que soient les réflexions, les constructions, etc., qu'on mettra en place, on ne sortira pas de questionnement comme ça, quoi, de manière pérenne. Voilà. Mais du coup, moi, ça m'interpelle vachement, là, quand tu dis, mais à quoi vous sert ? Est-ce qu'il y a besoin, quand il y a des questions d'argent, mais quand il n'y a pas de questions d'argent, est-ce qu'il y a besoin de trouver la réponse de la réponse.
Ah non, non.
Tu vois, non, mais bien sûr,
j'en étais venue absolument là. J'ai bien aimé d'ailleurs cette idée aussi de ne rien faire des fois.
Ah oui, 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 c'est vrai.
En tout cas, pas forcément.
La non-action, quoi.
Ouais.
Ça, c'est beaucoup posé, ça par exemple, sur les questions de biodiversité. Les assos qui travaillent sur la question de la nature et de la biodiversité avec le. Il faut rattraper toutes les conneries qu'ont fait les humains. Et en même temps, par moment, tu te rends compte que finalement, c'est le fait de vouloir absolument rattraper les conneries faites par les humains que ça renforce un peu ce système-là. Toute la non-action, elle s'applique beaucoup dans ce domaine-là. Ouais.
Moi, je voulais réagir à une chose que j'ai entendue plusieurs fois, qui était quand il y a de l'argent, on a toujours à se justifier, etc. Moi, je trouve ça assez paradoxal. Après, peut-être que vous pourriez répondre, mais il y a une époque où il n'y avait pas de. Enfin, les demandes de justification n'étaient pas comme ça. Moi, j'ai travaillé une mémoire sur l'insertion par l'activité économique. Et avant les années 2000, c'était des enveloppes globales de fonctionnement. Et il n'y avait pas de taux de sortie positive à avoir. Spécifiquement, taux de sortie positive, ça veut dire de gens qui retournent à l'emploi après le passage sur la structure d'insertion à l'activité économique. Il n'y avait pas, en fait, tous ces outils de gestion-là n'étaient pas mis en place. Et mon mémoire était étudier les effets de la mise en place de ces outils de gestion sur les SIA2E, donc ça a changé profondément leur nature. Et je veux dire que je trouve pas ça. Enfin, je pense que c'est aussi une des réussites parfois du capitalisme ou du libéralisme de nous faire croire que ça a toujours été comme ça et ça ne peut pas être autrement, mais enfin, ça l'a été, en tout cas dans ce secteur-là. Et donc je pense que c'est pas parce que ça l'a été que ça ne doit plus l'être, enfin, qu'on ne peut pas revenir en arrière sur certaines choses. Et moi je voulais faire un deuxième apport, j'ai travaillé dans une. Et je pense que ces outils de gestion, ils ont. Ils posent aussi des soucis parce qu'en fait, de fait, ils excluent toute une partie des personnes qui ne sont pas en capacité de se les approprier, enfin de répondre aux attentes des pouvoirs publics en faisant ça. Moi, j'ai travaillé dans une association de quartier qui avait été donc montée par des gens du quartier 25 ans auparavant. Ils étaient toujours présents, donc c'était des gens qui avaient fait. Voilà, enfin, ils avaient passé le bac, ou peut-être un bac+1, bac+2, j'en sais rien, on n'a pas parlé de ça. Et c'était. Donc, ils avaient réussi des choses que même maintenant, on n'arriverait plus à faire. En termes de d'amélioration de la cohésion, de vraiment d'une dynamique collective, hein, quelque chose qui était assez incroyable. Et en fait, il était face, donc il s'appelait Papy, et il était face à une problématique, était qu'il n'était plus en phase avec le monde là, de ce qu'on demandait aux associations, c'est-à-dire remplir de ces subventions avec des outils, enfin des grilles hyper complexes sur lesquelles il fallait effectivement chiffrer chaque ligne, etc., etc. Alors que ça fait 25 ans que la JAM fonctionnait très bien, et sans ça, en fait, de manière très très spontanée. Alors peut-être il y a d'autres écueils, hein, mais moi, dans cette association, j'ai désappris tout ce qu'on m'avait appris sur diagnostic, objectif, enfin voilà, désappris vraiment que les manières de faire pouvaient être autres. Mais n'empêche que l'association avait besoin maintenant de recruter des gens qui savaient faire ça, parce que eux, ils n'étaient pas, ils avaient vécu autrement, ils n'étaient plus, et ils allaient s'écrouler s'il n'y avait pas. Or, moi, j'ai accepté, en sortant de Master 2, de travailler au SMIC sur un contrat d'insertion dans ces structures-là. Mais évidemment, quand on sort normalement de grandes écoles et qu'on est gestionnaire, enfin, c'est pas vers ces postes-là. Ces postes-là n'existent quasiment pas dans toutes ces structures. Et en fait, elles sont vouées à s'écrouler parce qu'ils sont pas. Enfin, voilà, ils n'ont pas les compétences qu'on demande d'avoir, mais ils n'ont pas besoin de les avoir pour faire ce qu'ils font. On n'a pas besoin. Et donc, je pense que c'est aussi un autre écueil, enfin, voilà, de ces outils gestionnaires qui sont, en fait. Qui font que seulement ceux qui sont déjà formés dans ces écoles avec cette gestion-là pourront ensuite faire du développement associatif, et donc ça pose vraiment question sur son avenir.
Et après, je veux bien à un moment, peut-être tout à la fin, mais revenir sur cette question du tour de parole, comme Gaëlle. Mm. Parce que moi, je suis assez d'accord pour le coup avec vous, mais c'est une intuition plus que. J'ai pas d'argument. Et si vous pouviez m'en donner, après,
je donnerai des arguments après, à la fin. Voilà. Peut-être juste sur ce que vous dites sur la question de la justification de l'argent. Hein, alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, la rupture, c'est la loi organique sur la loi de finances. Ouais. Votée en 99, exécutée en 2021. Seule loi votée à l'unanimité du Parlement, du Parti communiste aux Républicains, qui dit qu'un euro de l'État, enfin un euro d'une collectivité doit être justifié. Avant, il n'y avait pas ce texte-là. C'est la rupture. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on injecte aujourd'hui un euro d'argent public, il doit pouvoir être justifié. Donc on a mis en place des outils de justification de l'argent public, en sachant que ce qu'on appelle justifié, c'est qu'on doit être en capacité d'expliquer à quoi a servi l'argent public. En sachant que les seules zones grises qui existent encore, c'est quelques fonds spéciaux dans les ministères et les fonds qui relèvent de la défense nationale, pas tous, mais une partie qui relève de la sécurité du pays. Tout le reste doit être justifié. 99 pour la loi de 2001 pour l'exécution. Ça c'est quand même l'élément majeur, hein. C'est ce que découlent les appels à projets, etc. On a formé les fonctionnaires aux outils de gestion pour qu'ils sachent, etc. Moi, je suis passé par une école de fonctionnaires de la territoriale. La première chose qu'on nous a appris, c'est la méthodologie de projet pour savoir combien coûtait ce qu'on allait mettre en œuvre. C'est vraiment la rupture, celle-là. Et ce qui veut dire qu'avant, on travaillait sur d'autres formes de régulation et d'explication de l'argent public, puisqu'il y en avait, hein, mais on travaillait sur d'autres outils. Et un autre point, c'est on mesure toujours, on trouve toujours que le pauvre coûte cher, mais on ne calcule jamais combien la justification de l'argent coûte. J'ai deux exemples. Hein. Le premier, à titre associatif, j'ai une asso nationale qui a un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, pour faire court. On dépense à peu près 120 000 euros par an en outils et en objets qui permettent de justifier de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est quand même énorme. Hein. Et sur les fonds d'expérimentation jeunesse, hein, qui sont donc sur l'innovation sociale, etc., etc., sur qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, c'est des fonds financés par l'État. Un FEJ, c'est 15 000 euros par an pendant 3 ans. Donc on touche 45 000 euros pour mettre en place un élément d'expérimentation qui va recevoir une évaluation par un cabinet extérieur. Le cabinet extérieur touche le double. Ça veut dire que pour expérimenter, on a 45 000, pour évaluer l'expérimentation, on a 90 000. Parfois, on se dit qu'on devrait plutôt avoir 120 000 pour expérimenter et 15 000 pour évaluer, quoi. Parce que moi, je fais partie des gens qui disent qu'il y a quand même un objet nécessaire d'évaluation. Je partage une partie d'éléments où il faut effectivement voir à quoi ça sert.
Mais c'est effectivement, c'est un des trucs qui me posait question, c'est aujourd'hui, bien sûr, il a toujours été nécessaire de justifier au moins l'utilisation de l'argent public. Mais c'est que c'est de pire en pire sur la question d'outillage et la question des compétences. Donc on paye, entre guillemets, plus cher parce qu'on a besoin de gens qui sont en capacité, qui sont formés, etc. pour faire ces outils-là. Ça passe plus de temps à les créer. Et il y a de plus en plus on est obligé de recruter aujourd'hui des gens qui, à l'interne, n'auront quasiment que ça comme fonction, c'est-à-dire l'administratif, les papiers, les trucs. Et là, je prends juste un exemple sur le financement européen et la règle. Je ne sais plus la question du budget, etc., mais on avait quand même, pour chacune de nos dépenses, un contrôleur premier niveau, un contrôleur deuxième niveau, plus machin, machin, un gars qui va passer, je ne sais combien de temps, regarder les numéros, mais c'est vrai, le ticket de métro, moi, il a été capable de me dire, au mois de juin, vous avez mis dans vos pièces justificatives le même ticket de métro qu'au mois de janvier, vous voyez, dans le scan. Ce qui veut dire qu'il a pris le ticket de métro, il a regardé le numéro. Donc le gars, il a passé 10 minutes, au moins, je pense, à regarder ça, et donc ça vaut plus cher que le ticket métro, le ticket métro, ça vaut plus. Et c'est ça pour plein de trucs, quoi. Et on parlait des financements sur la coopération internationale, c'est quasiment automatique les financements internationaux. Il y a un pourcentage qui est lié à de l'évaluation externe, alors je ne sais plus quel est le pourcentage, mais en gros, c'est effectivement plusieurs milliers d'euros qui, sur chaque projet de coopération internationale, vise à faire l'évaluation. Et donc tu dis, tout cumulé, ce que tu dis, ça me surprend. Comme ça, quoi. Alors, le double, je trouve ça aberrant.
Contrôlé par des agences de l'État où les salariés sont des gens en contrat court. Mmh. Et c'est l'idée d'un an non renouvelable, mmh, puisqu'ils sont sur les mêmes durées. C'est-à-dire qu'en plus, on précarise l'ensemble de la chaîne, quoi. C'est ça. Mmh. C'est ça. Mmh. Ouais, c'est clair.
Il doit y avoir des visées politiques à tout ça, j'imagine. Hein. C'est peut-être des humanisants, bien sûr, mais ça permet aussi de délégitimer complètement l'informel. Et du coup, j'avais envie d'avoir un petit peu d'espoir de là où vous vous placez, avec tout ce que vous nous racontez là. Est-ce que ça se passe différemment à la MRJC? Est-ce que vous avez réussi à mettre en place d'autres types de... Je ne sais pas, alors je ne sais même pas comment on peut dire. Alors du coup, ce ne serait pas de la gestion de projet, ça serait quoi? Ce serait de l'observation des projets ou de... Est-ce que même au niveau du vocabulaire, vous avez des pistes?
Alors, bon, pour nous, au MRJC, on fait ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire on répond à des appels à projets, on sait quand on les écrit qu'on les fera pas, et on a une capacité, on développe une capacité incroyable à faire rentrer des ronds dans des carrés dans des ronds, et pondre toute une série de phrases suffisamment verbiageuses, ou je sais pas comment dire, pour que ça passe. Voilà. Ça, c'est une stratégie, on se faisait la réflexion, j'ai embauché une chargée de valo, qui est payée pour faire complètement ça, et on discutait la semaine dernière en disant, mais je ne sais pas si les financeurs se rendent compte de notre capacité qu'on a à écrire du vent avant, au milieu et après pour justifier des financements. Voilà, ça, c'est le premier outil, il est là, et je pense que ceux qui peuvent se payer cette capacité-là à contourner l'obstacle sont déjà des associations qui sont suffisamment grosses, suffisamment formées, avec suffisamment de moyens. Donc la question, elle est souvent sur les associations qui sont en dessous, qui n'ont pas les moyens de se les payer. Ce qu'il faut préciser, c'est que plus on arrive dans la technocratie, ça c'est Béatrice Hibou qui le démontre, plus il y a de la technocratie, plus on est dans un monde néolibéral. Plus il y a de la technocratie, plus c'est le libéralisme qui a pris la main. Et contrairement à ce qu'ils nous font croire, c'est-à-dire qu'ils nous font croire que c'est que c'est les normes qui empêchent le libéralisme et qu'il faudrait... Mais plus il y a de normes, plus il y a de techno, plus c'est libéral.
Vous pouvez me dire Isabelle Hibou ?
Hibou, ouais. H-I-B-O-U. Qui parle de ça. Donc, au MRJC, nous, on a cette capacité-là à produire et à écrire des trucs qui rentrent, voilà, à mentir. Alors, sur les fonds européens, on est au sommet de l'art, puisqu'il faut, il faut justifier les agendas, etc. Donc, on fait des faux agendas. On a on développe un imaginaire absolument incroyable sur comment contourner l'obstacle. Ah, mais c'est énormément de temps. On paye des gens à récupérer du ticket de métro. Alors, à récupérer les tickets de métro, quand le prix a changé, de bien mettre le bon ticket de métro au bon prix au moment... Enfin, on en est là. Ouais, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Et ça, c'est pour ça que je dis, on ne chiffre pas ce que ça coûte. Alors qu'en fait, c'est, justifier un ticket de métro, c'est concernant. C'est 1,83€. Enfin, on parle de cette somme-là.
Souvent, voilà. C'est qu'il y a 50%.
Ouais, en plus.
Enfin, tu vois...
Il existe des assos qui font des plaidoyers spécifiques là-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas alors des Philippe Hénault ou des gens comme vous qui pourraient nous entraîner comme ça dans
Ce que j'allais répondre, c'est que nous, on a monté, puisque c'était un de vos axes, la recherche participative. On a travaillé avec Jean-Louis Laville sur une recherche participative et les têtes de réseau associatif sur comment, à un moment donné, réussir à faire rentrer dans la technocratie de l'État, alors le fameux CERFA 2035, qui est le CERFA qui permet de justifier des financements publics auprès d'une administration d'État, pour réussir à faire rentrer quelques lignes dans les éléments budgétaires qui permettraient de donner à voir ce qu'est le cœur d'une association. C'est-à-dire, on est obligé de justifier, par exemple, des heures de bénévolat. Aujourd'hui, on met des équivalents salaires du bénévolat. Donc, ce qui veut dire qu'on chiffre, en termes de salaire, ce que le bénévolat coûte... Enfin, ce que le secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement appelle des coûts évités pour l'État, ce qui est absolument infâme. Ça, nous, on dit, c'est, on ne peut pas le rédiger comme ça. Il faut qu'on rédige sur nos bénévoles, qu'est-ce qu'ils apportent au monde. C'est-à-dire, ils sont juste des exécutants, ils portent des chaises, ou est-ce qu'ils pensent le monde, est-ce qu'ils accompagnent des gens, est-ce que... Donc, ça, il faut que ça apparaisse. Donc, on essaye de faire monter dans des outils de gestion des éléments qualitatifs qui permettent de dire, à un moment donné, nos associations... avec leurs bénévoles, avec leurs militants et leurs engagés, ne sont pas juste des structures qui exécutent des tâches. Voilà. Ça fait partie des éléments qu'on essaye de construire. Le deuxième élément que je pourrais apporter, c'est d'aller chercher dans ce qu'on essaye de travailler dans nos associations. Alors nous, on essaie de le faire au MRJC sur... De quand même, alors c'est un des effets quand on pipote nos appels à projets, enfin ça faudra pas vous ne transcrivez pas intégralement ce que je raconte là, mais quand on pipote les appels à projets et qu'on pipote les évaluations, le but c'est qu'on a une instance centralisée qui fait ça pour que les gens qui sont en train d'exécuter n'aient pas à le faire. puisqu'on est une association où il y a une tête de réseau importante et puis des sections locales. Et que la section locale, elle puisse quand même agir avec des projets qui sont issus et que nous, on finance, ou qu'on aide à financer. Cet élément-là, ça oblige à un moment donné à se mettre en réseau. C'est-à-dire qu'il faudrait que les confédérations globales, mais alors le FISC, vous faites partie un peu de ça quand même, que les confédérations, elles arrivent à avoir à s'outiller pour pouvoir garder de l'initiative locale et permettre à ces petits assauts de terrain, en fait, de pas avoir à rentrer dans ce monde de la technocratie. Et voilà, et que finalement, on se mutualise pour contourner l'obstacle. Ensuite, je pense qu'il y a une partie des politiques qui peuvent entendre ça, c'est qu'il y a quand même, dans la recherche permanente de la justification du 1 euro pour 1 euro, de la LOLF, ils en voient aussi les limites. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les programmes qu'ils essaient de mettre en œuvre, on voit bien que... ils font du programme, c'est programmatique, c'est organisé, etc. Et quand ils ont face à eux un certain nombre de gens, des acteurs qui ne sont pas des acteurs ni du terrain, ni qui connaissent les gens avec lesquels ils travaillent, etc., ils ont un discours où on commence à voir, c'est en permanence les mêmes PowerPoint qui défilent, avec la même jargonnerie, etc., etc. Et là, en partie, le personnel politique se dit qu'il y a quand même quelque chose qui est déconnant, en fait. Et là, c'est le moment où il faut arriver à proposer une manière de fonctionner sur ce qu'on essaye de faire de manière différente. Je m'arrêterai là-dessus. J'ai deux éléments à donner là-dessus. Le premier, et qui me semble intéressant à avoir, c'est quand on réfléchit sur la question du management, un sociologue, je crois qu'il est sociologue, je ne suis pas sûr, bref, qui s'appelle Thibault Le Texier, qui a travaillé sur la question de d'où vient le management. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les premiers manuels de management, c'est des manuels écrits par des hommes qui expliquent comment leur femme doit tenir la maison. Pour que l'homme dans l'espace public, quand il rentre à la maison avec ses copains, soit sûr de montrer à ses potes ô combien la maison elle est bien tenue, même s'il n'est pas là. Et si on prend cet élément-là, c'est ça qu'il explique, ça glisse, mais c'est exactement le même dispositif. Le manager, moi je dirige un mouvement, je peux m'en aller aujourd'hui et je sais que le truc va tourner. Donc la question, c'est comment, à un moment donné, en fait, on est capable de revoir ces éléments-là pour repenser des outils de management où le manager, il n'est pas là, il n'est pas celui qui n'est pas là et qui donne ses ordres, mais celui qui est là et qui accompagne et qui fait avec ses salariés. Et ça, c'est pour moi un enjeu majeur dans le fonctionnement associatif, c'est-à-dire comment on reforme les cadres associatifs. Et l'autre élément qui se rapproche de ça, c'est quand on regarde ce que les travaux, par exemple, de Joan Tronto sur le CARE, Joan Tronto, elle oppose une société du CARE à une société du risque. Et elle dit, la société du risque, c'est une société où on empêche l'ensemble des risques, d'où toute une série d'outils de gestion, que ces risques sont monétisés, du coup, ils n'existent pas. La société assurantielle, etc., etc. Enfin, on le voit sur toute une partie d'endroits où il faut prendre des assurances, il faut faire passer des boîtes de certification, parce qu'en fait, personne ne veut prendre les risques. Et elle dit, à ça, il faut opposer une société du CARE, hein, une société où on est dans la relation avec l'autre et où on prend le risque de rencontrer l'autre. Et ça, il me semble que c'est un enjeu majeur sur le travail social, l'animation, les métiers de la santé, etc., où on a ce rapport-là. Ce qui veut dire qu'un travailleur social ne peut pas, à un moment donné, faire machine arrière quand il est face au risque et qu'il dit « moi, je ne peux pas travailler parce qu'il y a un risque ». S'il fait ça, il n'est pas travailleur social. Ce qui ne veut pas dire que les conditions de travail doivent être dégueulasses, etc. Ça veut dire qu'il faut qu'on leur reconnaisse la capacité à travailler dans des espaces qui sont des espaces risqués. Mais ça, c'est un problème de formation. Alors, les médecins l'ont très bien compris, en partie. Enfin, les médecins, les personnels de santé, le Covid l'a démontré. Hein. Enfin, ma compagne est infirmière. La période Covid, c'est je vais travailler, je ne sais pas ce que j'ai, je prends les risques, mais j'irai travailler. Voilà. C'est à peu près le dernier secteur qui fonctionne comme ça. Tous les autres ne fonctionnent plus comme ça. Dans l'animation, le nombre d'animateurs qui disent « je ne vais pas travailler là, c'est dangereux. Je ne vais pas travailler avec des autistes, ils pourraient me taper dessus, etc. » Ça, c'est inentendable si on veut changer. Si on raisonne par le risque, on ne peut pas avancer. Mais sur le management, c'est pareil. Il faut que le manager, il accepte de risquer la rencontre avec les salariés qu'il a en face de lui. Et ça, pour moi, je pense que c'est un défi associatif.
C'est un défi plus global, c'est tout simplement de retrouver un fonctionnement qui fait place à la vie sociale avant de faire place aux logiques de l'argent ou aux logiques économiques. C'est-à-dire de voir que toutes ces activités-là, qui sont celles du travail social, celles du lien, en fait, toutes celles des activités de reproduction sociale qui sont les plus importantes.
Je pense que ça sera par palier. Donc je me dis qu'il faut déjà changer mon palier, et puis j'espère changer le reste. Ouais, mais je suis d'accord.
Dans un changement global. Changer de palier. Moi, je vais juste rajouter un deuxième truc. Là, vous dites qu'on peut bricoler. Effectivement, on a écrit plein des dossiers de subvention où en fait, on allait faire un peu ce qu'on veut derrière parce que. Il ne faut pas aussi se cacher qu'on n'est pas une dictature et que tout n'est pas contrôlé avec des gens qui viennent voir toutes les mises en place des projets et tout. Enfin, on a fait plein qui ne correspondaient pas. On avait de l'argent pour faire quelque chose, on a fait autre chose avec. Mais par contre, il y a une dimension du bricolage, de l'artisanat même qu'on peut revendiquer, mais je trouve qu'il y a un deuxième aspect au moment où on se met à bricoler, etc. C'est celui de, si on n'est pas en capacité de répondre à leur attente gestionnaire, c'est de favoriser... le copinage et de revenir à des pratiques qui sont presque de la corruption. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas en capacité d'évaluer et qu'on n'est pas nous en capacité de répondre à leur attente de gestion, il va y avoir, et moi je l'ai vu donc, dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est la survie parce que en fait on accepte d'avoir une activité politique au sein de l'équipe en place et qu'on va aller inciter les gens à voter pour l'équipe municipale en place. Et ça peut changer en fonction du changement c'est-à-dire que là, moi, clairement, dans l'association où je bossais, il avait été donc socialiste quand les maires étaient socialistes, puis il était les républicains depuis que le maire était républicain, parce que c'était l'enjeu de la survie. Et donc, je trouve que c'est un autre souci quand on n'est pas... Voilà, quand on, si on ne peut pas passer par la voie officielle de la gestion, on passe par des voies détournées qui parfois ne sont pas très propres. Et celles qui n'ont pas les capacités de le faire non plus, bah, pareil, elles meurent. Elles risquent de mourir.
Je ne peux pas finir là-dessus, hein, par contre. Hein, mais...
Moi, j'avais deux réactions aussi à ce que vous avez amené. C'est la nécessité, effectivement, de bien choisir ses mots. Je crois que la gestion, il y a un enjeu de... L'importation de la gestion marchande, elle vient aussi par les termes qui nous sont imposés. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme autre terme ? Et derrière ça, il y a l'enjeu aussi de faire des récits, c'est-à-dire d'arriver à rendre compte, à raconter. Donc... Par exemple, à la méthodologie de gestion de projet, ben, il y a peut-être autre chose. Ben, cette autre chose, il faut pouvoir le décrire, il faut pouvoir le rendre visible et lisible par d'autres. Je crois qu'il y a un enjeu très fort. Et alors, l'autre réaction, c'est sur le plaidoyer. Moi, je pense qu'il y a un plaidoyer qui doit être construit là-dessus, mais il y a aussi un enjeu qui est interne aux structures. Parce que, malheureusement, je pense qu'il y a déjà, dans certaines structures, la logique est déjà interne, quoi. C'est-à-dire que sans qu'on s'en rende compte, ou bien on s'en est rendu compte, mais pour prendre un exemple sur cette recherche participative, donc, qui est un nouveau dispositif, donc il y a eu une modification du décret, donc du cadre légal, qui régit toutes les associations d'éducation permanente. Et sur la recherche participative, ils ont été assez ouverts, quoi. Ils ont dit une recherche participative, c'est une recherche dans laquelle le public participe à toutes les étapes. Et c'est à peu près tout ce qu'ils ont dit, quoi. Donc c'est vraiment une espèce de carte blanche, quoi. Donc, on peut faire une recherche participative. Ils ont dit ce que ça valait, donc il y a une espèce de valorisation. Et alors, j'ai eu une discussion avec... la présidente du Conseil supérieur de l'éducation permanente. Donc ça, c'est intéressant, c'est que dans ce financement, il y a aussi une instance qui réunit les acteurs. Bah, alors, sur base de candidature et de sélection par la ministre. Et cette instance, elle est consultée à certains moments par le politique, quoi. Donc ils doivent remettre des avis, etc. Et alors, elle me relatait une discussion interne où, à l'intérieur même de ce conseil, donc, qui réunit les gens qui, voilà, qui portent vraiment le mécanisme de l'éducation permanente, il y avait des discussions internes pour dire « Mais non, c'est beaucoup trop ouvert, ce mécanisme. Il faut le préciser beaucoup plus. Quoi. Il faut mettre des normes, des contraintes. Il faut mettre des... C'est quoi une recherche participative ?» Ben, ça va... Et donc, les acteurs eux-mêmes qui bénéficient de l'ouverture, certains d'entre eux ne prennent pas cette possibilité et sont demandeurs à la limite d'un cadre beaucoup plus contraignant. Et voilà un exemple où moi ça me fait penser que si un plaidoyer est nécessaire, un travail aussi à l'intérieur des associations est nécessaire pour interroger la gestion, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle doit être et comment la mettre au service de...
Et pour montrer autre chose, parce que tu disais d'ailleurs sur une des premières situations de l'histoire de l'impact social, à un moment, je suis étonnée parce que la plupart des assos semblaient être demandeuses d'indicateurs chiffrés et vouloir aller vers ça. Et en fait, moi ça m'interpelle parce que bon, moi j'ai pas eu ce même retour hein, par rapport au projet qu'on avait ensemble, enfin j'ai pas eu la même impression. Mais je pense que c'est aussi parce que possiblement elles ne connaissent peut-être que ça. C'est-à-dire qu'elles ont tellement été dans ce mode-là depuis des années et des années avec la question de la professionnalisation du salarié, etc. Des formations de management et qu'on ne te guide que vers ça, les financeurs demandent que ça, que du coup tu pars du principe et encore aujourd'hui, enfin la question du chiffre, on a l'impression que c'est même dans nos réseaux, quoi. C'est la donnée qui permettra de dire si un projet est bien ou pas, si on est dans le bien ou dans le mal. Enfin, voilà, on en est à ce truc-là, quoi. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est plus parce qu'elles ne comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants de ça et les autres possibilités, les autres choses qui existent, les autres versions. Parce que quand tu leur amènes, et on parle des financements publics aussi dans le projet qu'on a eu ensemble, certains des financeurs publics qu'on avait associés sur les réflexions, en fait, à la base, étaient demandeurs d'indicateurs chiffrés. Et quand on leur a expliqué les enjeux et sur quoi on pouvait travailler, eux-mêmes étaient ouverts à dire « Mais non, mais c'est ça qu'on veut, en fait. » On ne savait pas qu'il était possible d'aller vers ça. Et c'est ça qu'on veut, c'est du qualitatif, c'est valoriser ce que ça génère au-delà des attendus. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est plus une question aussi d'ouvrir un peu les chakras de d'autres perceptions, d'autres manières de voir la gestion, d'autres manières de voir les projets associatifs et tout ça.
On voit par exemple sur les formations, les premiers niveaux de formation type première année de DUT carrière sociale, ou vraiment les gens qui arrivent dans le métier. Il y a un texte qui dit par exemple que dans un projet pédagogique, donc c'est là-dessus qu'ils vont attaquer, l'objet c'est d'écrire ce que l'on va mettre en œuvre dans son rapport avec l'enfant. C'est ça que c'est écrit. C'est jamais dit, on va écrire des objectifs et des moyens. Et bien, automatiquement ils écrivent en objectifs et en moyens. Première année de DUT carrière sociale. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont intériorisé déjà avant l'idée que c'était la seule forme d'écriture qui était possible. Et effectivement, je partage mais complètement l'enjeu de l'écriture. Il faut que les reformer les gens à être capables d'écrire et de décrire ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est en mots, en texte, c'est un outil absolument nécessaire. Quand je dis qu'on pipote, en fait, c'est ça qu'on fait. C'est on arrive à écrire et décrire ce qu'on fait parce que quand on fait un appel à projet, on écrit, on ne justifie pas des trucs qui sont complètement hors de champ, on n'écrit pas des conneries, mais on contourne en sachant écrire et décrire ce qu'on a fait pour le faire rentrer dans la case. Et ça, c'est un objet absolument majeur. Et sortir de cette logique objectif et moyen, qui est une réduction de l'esprit. Hein. Comme les PowerPoint, hein, c'est faut arrêter de faire des PowerPoint. Il faut arrêter ça. Dès qu'on voit un PowerPoint, il faut arrêter. Il ne faut même pas regarder. C'est la réduction de la pensée et de la complexité.
Que ce soit dans l'intervenant ou pour les participants.
Ouais.
Qui est enfermé dans l'idée depuis le début.
Exactement.
Sans laisser place à,
Exactement. Avec quelques idées majeures et on oublie le rapport, la complexité, etc.
Le côté itératif. Enfin, là, on parle des PowerPoint, mais ça va dans les projets. Le côté itératif de il se passe quelque chose et ça fait bouger ta ligne ou ça fait bouger ton projet, ça se défend, c'est important.
Dernière sur deux trois choses, c'est hyper intéressant. Je sais pas si vous étiez là ce matin quand Mathieu de Diendo disait faut parvenir à tirer parti d'une situation assez défavorable pour voir comment est-ce qu'on peut retourner les choses et que ça soit favorable, etc. Et moi, je me disais, parce que je suis complètement d'accord, hein, il y a une révolution avec la LOC en 2002, c'est-à-dire en fait, l'introduction du New Public Management. dans les structures qui n'ont pas vocation à faire de l'argent, dans les structures publiques, et puis après par ricochet dans le monde associatif. Et en fait, il y a peut-être une fenêtre de tir avec la crise du New Blues Management, c'est-à-dire que là, on assiste quand même à des limites qui sont de plus en plus évidentes pour un nombre croissant de personnes, type ce qui se passe avec Orpea, les maisons de retraite, etc. On voit bien que, en fait, le discours qu'on tenait jusqu'à présent dans le désert va devenir peut-être un peu plus audible à ce niveau-là. Et donc, c'est hyper important parce que moi, je suis d'accord, j'ai noté la phrase que le managérialisme est un véritable rouleau compresseur. Mais je cherchais un adjectif qualificatif parce que c'est pas un. J'allais presque dire, c'est un rouleau compresseur d'une subtilité redoutable en fait. C'est pas un rouleau compresseur qui se voit vraiment et donc c'est pas. À la fois, je voyais bien cette image et à la fois, je n'étais pas tout à fait à l'aise. Je cherche comment caractériser ça mieux. Moi, je me dis que c'est vraiment intéressant parce que vous voyez des liens évidents, des passerelles en fait, là, avec l'atelier marchandisation, évidemment, et puis aussi. Avec l'atelier qu'on aura demain sur dépressuriser, comment est-ce qu'on appuie sur pause et comment c'est la première étape pour refaire, pour simplement penser ça, quoi. Et puis aussi, sur l'atelier qu'on aura demain, sur un autre financement, on va étudier le cadre du financement de l'éducation populaire permanente en Belgique, parce que je crois que c'est urgent qu'on arrive à s'inspirer de ça pour porter un certain nombre de propositions et justement avoir. Avoir un cadre quoi, qu'on peut proposer.
Avec Luc Carton, c'est ça ?
Alors, Luc Carton sera peut-être pas là, parce qu'il sera là, mais il y aura la FESEPA qui sera là, et aussi Geoffroy Carly. Ouais, ouais. Voilà. Non, après, moi je suis content aussi que Gaël, tu notais tout de suite sur les droits culturels, parce que ça m'a évoqué, en fait, on a fini la table ronde ce matin, Jean-Louis David disait faut voir comment les associations n'agissent pas pour des publics, mais avec des publics. C'est vrai que l'enjeu il est là sur les droits culturels. Et je me disais, je trouvais vachement intéressant l'exemple que tu prenais, Fleur, de ton expérience. Grosso modo, tu as été un peu interface entre une vieille association qui fonctionnait, on va dire, à la One Again, quoi.
Et puis, exactement le mot qui
voilà. Et puis toi, en fait, le travail de traduction que tu as fait, et je me disais, c'est exactement ça. Il faut former tes interprètes. Même si j'étais aussi sensible à cette remarque, finalement, aussi. C'est-à-dire que les interprètes, en fait, c'est des grosses assos qui peuvent en avoir. Donc, plus des petites assos, mais c'est justement le rôle des têtes de réseau, etc., aussi, de peut-être dépêcher un certain nombre de ressources comme ça. Et voilà, des gens capables de faire des dossiers de subvention, et donc dans cette interlocution-là, et puis en même temps, de complètement jeter ça, de mettre ça de côté quand il s'agit vraiment d'agir sur le terrain, etc. Et je me disais simplement aussi, j'ai trouvé ça vachement important aussi ce que tu as dit sur finalement, si on adopte ce langage-là, c'est compliqué parce qu'en plus on l'adopte forcément, parce que forcément on gère, forcément on se projette, donc on fait du projet. Donc, trier le bon grain de livret, c'est vraiment hyper compliqué. Et si on l'adopte aussi, c'est pour avoir un langage commun. Et le cadre dans lequel on évolue, qui est le cadre où il y a une prégnance de valeurs qui sont antinomiques avec tout ça, fait qu'on a besoin d'un langage commun. Et en fait, je me disais, il y a une tension quand même entre le fait de construire un plaidoyer sur la base d'une fierté recouvrée de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Qui serait de nature à lutter contre le complexe d'infériorité, je ne sais plus, je crois que c'est toi qui notais ça, et en même temps, un tropisme à l'humilité qu'il y a dans nos actions, en fait. Et c'est vachement compliqué, en fait, cette tension pour résoudre le complexe d'infériorité, d'assumer une certaine fierté, et en même temps, de continuer à être assez humble, quoi. Enfin, voilà. Il y a vraiment plein de choses. Mais aussi ce que tu dis sur l'objectivation pour éviter un peu des effets de copinage, limite corruption, etc. Ça me faisait penser à un travail qu'on avait fait quand moi je travaillais sur un département avec le conseil départemental. On avait essayé de travailler sur les critères de subvention pour justement se mettre à l'abri d'accusation d'arbitraire. Dans, voilà. Et ouais, former les interprètes, c'est vraiment juste c'est une anecdote personnelle. Mais je donne des cours de méthodologie de projet. En fait, développement territorial. Non, mais justement, en fait, en gros, j'ai 16 heures de cours et les 4 premières heures, je leur fais les bases de la méthodologie de projet. Je leur fais exactement ça, diagnostic, moyen, objectif, évaluation. Et après, je leur fais faire un apprentissage du bouquin de Franck Lepage, enfin de Lascope Lepavé sur le projet. Et après, tout le reste, en fait, c'est un travail d'auto-apprentissage du travail collectif. C'est ce que c'est que le travail collectif, collaboratif, etc. Et le but, c'est de former justement des interprètes qui seront capables de se débrouiller avec les deux qui n'en servent pas. Et en même temps aussi de.
Et voilà, double lecture.
Tu devrais le faire dans l'autre sens, peut-être.
Ouais, ça fait super faire
sur les
interfaces. On va bien interface, hein, mais du coup, c'est.
Ouais.
C'est dit que là, vraiment, alors qu'on parle de co-construction toute la journée, tu vois, on est loin, quoi. Hein.
Ouais.
Ouais. Mais on va y arriver. Enfin, après, moi, ce qui me fait peur, c'est que je... Excuse-moi, Fleur, je te prends la parole.
Ah non.
Je sais à quel point ton choix aussi pour rattraper le vocabulaire, voire même bientôt nous enfêler dans des indicateurs qualitatifs, ça ne serait tardé. Le droit culturel, là, à l'époque du ministère Nissen, mais c'était l'horreur, en fait. C'est elle qui nous regardait, qui nous disait qu'il ne faut pas parler de public. Ah ouais. Alors, comment je... Enfin, tu vois, ça confine vraiment à l'absurde. Et du coup, là, on n'avait plus de vocabulaire pour se défendre. Tout le vocabulaire avait été récupéré, on ne savait plus trop comment dire. Et la puissance publique est assez forte, en fait.
Moi, je trouve bien sur l'expérience du réseau Culture 21 sur le droit culturel. Ce que je trouve fort dans leur travail, c'est qu'ils proposent une matrice qui est en fait une matrice de questionnement. En fait, ils font travailler les gens sur des questionnements. C'est ça, en fait, l'évaluation qu'ils proposent. Et c'est vachement intéressant.
Peut-être, je ne sais pas, je coupe la parole.
Ah, pardon.
Okay. Peut-être deux éléments. Sur la question du projet, moi je parle de méthodologie de projet, je ne parle pas de projet. Parce que si on parle du terme projet, on considère que le projet, si on le prend sur sa définition existentialiste du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme sans projet, hein, c'est ce que disent les existentialistes, c'est-à-dire c'est cette capacité à se projeter vers un demain, et un demain qui sera meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est ce que définissent les existentialistes, et à un moment donné, cette idée-là, elle est absolument nécessaire. Ce qui pose question, c'est la méthodologie de projet. Et les libéraux, ils ont cette capacité à fusionner les expressions ou à reprendre le terme de leurs opposants pour en faire leur... Et ça, c'est le... Il y a un appel à projet de la Caisse des dépôts actuellement sur la forme scolaire. Tout la jargonnerie, donc c'est un appel à projet qui est financé par la Banque des Territoires, cet appel à projet, il reprend tous les termes des pédagogues qui sont opposés à la forme scolaire. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc ça, c'est quand même à avoir. Si on veut pousser les raisonnements qui ont été poussés les plus loin sur la question de la méthodologie de projet et sur l'absurdité, c'est sur les compétences. Voire sur un certain nombre de travaux sur les soft skills ou sur les compétences. Regardez les livrets de compétences des enfants de maternelle. Vous verrez l'absurdité le truc le plus absurde de la Terre. Et sur les soft skills, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. C'est-à-dire qu'on arrive à des tableaux qui sont à la limite de l'insupportable et on parle de gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de mécanique, d'outils, de vis, de boulons, on parle de gens. Hein. Et ça, c'est quand on reprend les démarches qualité.
On parle de gosses comme 3 ans.
Ouais, ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas des gens avec la réflexion, le bagage, le parcours, mais, etc., qui peut s'inscrire éventuellement là-dedans. Mais c'est que là,
on
catégorise dès leur journal.
Exactement, mais on fait la même chose sur les vieilles personnes qui sont atteintes d'Alzheimer.
Ouais.
On a des tableaux de développement de la maladie d'Alzheimer qui sont insupportables. Je veux dire, avec des manières de travailler avec elles où on les surmédicalise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de lien humain, on les a surmédicalisés, c'est-à-dire que même jouer à la belote, ça devient un atelier d'ergothérapie, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on va peut-être laisser les vieux Alzheimer jouer à la belote et mourir, quoi. Voilà, c'est peut-être juste bien, ça, en fait. Donc ça, c'est quand même des trucs... Et sur la question... Sur l'autre question que ça me faisait, c'était la question du FDVA, par exemple. C'est un très bon exemple à aller chercher. Le FDVA dit 2, qui est en fait l'argent de la réserve parlementaire qui est devenu un FDVA.
Divisé par deux.
Ce truc-là, avant, c'était de la corruption, quoi. Enfin, c'est-à-dire ça allait de la main à la main. Sauf que ce la main à la main permettait à l'association des boulistes de je ne sais pas où de faire un barbecue, une brocante, une braderie, etc., etc. Et donc de pouvoir fonctionner sans avoir à monter un appel à projet, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un appel à projet. dans lequel il y a une commission, dans lequel les élus sont réarrivés. Donc en fait, la corruption, elle est de la même manière, puisque l'élu, quand il est dans la commission, c'est lui qui décide et qui donne ses bons points. Les autres ne sont que des exécutants. Donc on est dans le même dispositif de corruption, sauf que ça a les allures de la démocratie. Donc on est, en plus, en sachant que les gens sont exclus, parce qu'en fait, il y en a plein qui ne répondent pas à ces appels à projets. Donc on a la double peine dans ces affaires-là. Et là où on redit qu'à un moment donné, en fait, ça aurait dû faire valoir, ils auraient dû faire des fonds départementaux qui pouvaient être éventuellement co-gérés avec des gens, qu'on remette du collectif, qu'on remette des espaces de décision collective par consensus, on aurait réinventé des formes de démocratie. Ça, c'est aussi un élément qu'il faudrait avoir en tête, plutôt que le seul décisionnaire soit l'État, le financeur, etc. etc. L'argent de l'État n'appartient pas à l'État. Il appartient aux citoyens. Voilà. Et ça, c'est quand même, à un moment donné, quelque chose à avoir en tête. Et le dernier avatar qui va arriver, c'est les démarches qualité. On n'a jamais autant parlé de... On n'a jamais défini autant de critères de bien-traitance dans les maisons de retraite. On n'a jamais eu autant de scandales de maltraitance dans les maisons de retraite. Ça veut dire que ça ne marche pas. Et ça, il faut que les associations... Au même titre que les libéraux prennent tout ce
est-ce que... Est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas ou est-ce que ça veut dire que là, ça met en lumière les choses qui existaient déjà depuis longtemps?
Ça ne marche pas.
Ah, ça ne marche pas, certes.
Ça marche pas. Le principe de la démarche qualité ne marche pas.
Ah ben ça, d'accord. Mais le fait que ça, on en parle autant, est-ce que c'est qu'il y en a... C'est pas qu'il y en a plus. C'est que là, parce qu'on travaille sur ça aussi, on met en lumière des choses qu'on enfouait avant. Mmh. On enfouissait, pardon.
Il y a toute une partie de choses qui resteront compliquées, parce qu'il y a aussi une partie de personnes âgées qui n'allaient pas dans les EHPAD pendant très longtemps, qu'on a soit à domicile, soit avec l'allongement de la vie, etc. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire des comparatifs. Moi, je me limite juste à nous sommes associatifs, nous devrions choper le scandale Orpea pour écrire noir sur blanc combien la démarche qualité ne fonctionne pas. Le Covid a démontré que les démarches qualité faites par des qualiticiens étaient une aberration complète.
Ça existe, ça,
qualiticien ? Bien sûr, les hôpitaux sont remplis de qualiticiens. Demandez à une infirmière ce qu'elle pense du qualiticien de service.
Qualiticien ?
Mais oui, le type qui est... le type qui est derrière tous les gens qui travaillent. Alors, je donne un exemple très simple. Les qualiticiens, donc, ils prennent les normes, hein, donc les critères de la Haute Autorité de Santé, sur l'organisation d'un service de soins. Il y a des normes. Il y a des milliers de critères sur ce truc-là. Et donc, le qualiticien, il a comme objectif de mettre en place concrètement la norme sur le terrain. Et donc, par exemple, dans les hôpitaux, ils ont rangé les tiroirs à médicaments dans un ordre, les compresses dans un autre, etc., les poubelles, etc. Tout ça, c'est organisé. Eux, ils l'ont fait sur la norme. Posez la question aux infirmières qui travaillent quotidiennement sur ce qui a été fait. Quand la compresse, elle est là-haut, le bac à haricots à vomi, il est là-bas, les seringues, elles sont là-haut. En fait, elles font ça, elles prennent, etc. Alors qu'avant, elles avaient un tiroir, elles prenaient tout, elles remettaient. Voilà. Et ben, le qualiticien...
Après, c'est avec ce même genre de démarche qu'on fait les postes sociaux, pas possible aussi, sous forme... C'est quoi les nouveaux termes? C'est le design social? On essaie de rationaliser au maximum et...
Et le qualiticien est payé plus cher que l'infirmière.
Moi, je vais être qualifié.
Sans aucun savoir de terrain.
Je pense que ça
progresse
une petite heure.
Ça. Ouais.
Est-ce que vous me laissez deux minutes que j'explique juste un truc qui m'était demandé?
Ouais.
Ok.
Je vais juste mettre du temps. Après, on se retrouve tous au premier pour la balade.
Est-ce qu'on récupère nos valises, etc.?
On peut fermer la porte,
ouais.
Et revenir après.
D'accord, parce que la balade, ça finit pas à l'apéro.
Excuse-moi, si, j'ai là-bas. Oui, ouais. Au jardin ressources.
On va encore vous voir quand on reviendra ici vers 19h.
C'est plus tard, à mon avis, parce que c'est l'apéro, il est à 18h30.
Ouais, mais je prends ma valise.
Et le spectacle,
ouais.
Il est à 20h30 ici, on est d'accord,
ouais.
20h30.
Ah, il est ici, oui. Ouais, bah, si il y a quelqu'un pour nous ouvrir, je
vous prie. Ah, oui, oui.
Le tour de table.
C'est ça que je voulais. Je n'ai pas oublié. Alors, pourquoi le tour de table est un outil de manipulation? Alors, le non-tour de table, parce que c'est comme ça que je l'appelle le cas échéant, est un outil qui permet à tout le monde de parler. Mais de parler dans des conditions qui permettent à chacun d'avoir la liberté de s'exprimer et de pouvoir parler dans les meilleures conditions pour lui. Si vous faites un tour de table, vous prenez la parole, vous donnez la parole à mon voisin de droite, par exemple. Est-il quelqu'un qui a besoin d'écouter les autres pour se faire un avis, Est-il quelqu'un qui a besoin de réfléchir pour prendre la parole? Est-il quelqu'un qui est timide, qui a la parole facile, etc., etc. Je ne sais pas. Pour permettre à chacun de savoir, il y a des quantités de gens qui ont besoin de réfléchir, d'écouter les autres, de savoir comment ça se passe, etc., pour parler. Hein, voilà. Donc, la règle, c'est, moi je vous la parole, ce que j'ai fait là, et je dis on ne fait pas de tour de table, parlera ceux qui sont prêts à parler.
En général, on peut anticiper.
Bah,
tu y vas quand t'es prêt.
On y va. Les gens y vont quand ils sont prêts.
Si t'as pas envie de parler, pardon.
Ouais. Ouais.
Si t'as pas envie de parler, tu parles pas.
Exactement.
Tu respectes ton choix.
Exactement. Sur certains éléments, notamment les présentations sur tour de table, on peut donner comme règle, par exemple, qu'on demande au moins à chacun de parler pour donner son prénom. Ça peut être demandé. Mais même ça, il y a plein d'endroits où moi je le fais de moins en moins. Et les gens prennent la parole en croisée, c'est-à-dire quand ils sont prêts, etc. Et l'autre règle qu'on donne, c'est on compte à trois qu'il y a un silence avant de prendre la parole, pour permettre à la personne de finir son idée. Et en faisant ça, dans la grande majorité des cas, il peut y avoir une ou deux personnes, moi je rappelle, hein, vous n'êtes pas obligé de parler, etc. Il y a parfois des gens qui ne parlent pas, mais c'est quand même relativement rare. Et chacun ensuite dit un certain nombre de choses comme il l'entend.
D'accord.
Voilà. Et ça évite un élément qui en fait, si on fait si vous donnez la parole, en fait les gens ceux qui ne sont pas prêts, vont être stressés, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas écouter, ça veut dire qu'ils vont réfléchir à ce qu'ils vont dire, donc ils ne vont pas écouter la parole de l'autre, etc. Et donc, de fait, on finit par faire des espèces de cercles où toutes les personnes sont stressées, et plus la parole approche, plus les gens sont stressés, etc. Donc, ça devient un truc affreux. Et si vous voulez contraindre des gens à dire quelque chose, si vous voulez manipuler un conseil de quartier, vous dites, bah, vas-y. Bah, les gens...
Vas-y, on sent bien qu'il y a un air un peu féroce.
Voilà. Et si on dit, bon, on va faire un tour de l'air, mais on commence par là, bah, en fait... La personne d'après, elle va dire, ah, bah, il faut que je dise un truc intelligent. Enfin, voilà.
Ça empêche aussi les conditions de la discussion. Alors après, ça dépend, pas en présentation, mais un tour de table en discussion, par exemple, répondre à la question, sommes-nous contre les appels à projet ou pas, et faire chacun son tour, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en capacité de répondre à ce que la personne va dire quand on est le dixième après. Et en fait, ça, c'est pas une discussion, ça n'existe pas. En fait, c'est très très artificiel. Ouais. Ça n'existe pas dans le fonctionnement de la vie sociale. Moi, c'est plutôt ça qui me gêne. Après, il faut quand même avoir. Parce qu'il y a aussi parfois le stress de prendre la parole, on la prendra pas alors qu'on a quand même envie de dire quelque chose. Et parfois, c'est bien qu'il y ait des mécanismes qui fassent que. Mais ça marche. En fait, c'est de la confiance et du temps.
Pour ouais, dans les faits. Dans les faits. On
oublie parce qu'on fait plein de trucs.
Je me rappelle pas, parce que souvent, ça m'est arrivé dans beaucoup d'endroits avec des gens parfois en situation vraiment difficile sur la parole en public. Souvent je débrief en disant mais est-ce que vous avez quand on se connaît, c'est-à-dire quand les choses sont installées et qu'on débrief en disant mais est-ce que quand on a fait ça avez... Et en fait il y a beaucoup de gens qui disent mais moi ça a été important, j'ai pu parler parce que j'ai entendu ce que les autres ils ont dit.
Bien sûr.
Et donc du coup j'ai pu dire quelque chose.
Voilà. Bien,
et ça c'est quand même une règle importante de pouvoir respecter ça et respecter qu'il y a des gens des fois qui n'ont pas du tout d'avis, donc ils ne savent pas quoi dire. Voilà. Et même sur des tours de table, hein, quand on dit présentez-vous, en fait les gens si vous faites ça avec des gens en situation de grande pauvreté, en fait, par exemple, ils ne savent pas quoi dire. Il va dire, bon, je m'appelle machin, je suis mère de famille, ou bonjour, je suis machin, je suis père de famille. En fait, ils ne savent pas quoi dire.
Voilà. Et je trouve que du coup, cette histoire de tour de table, c'est que tu as tendance aussi à orienter la manière dont les gens vont se présenter en fonction de le premier qui parle.
Qui commence,
le premier qui parle, s'il dit son prénom, le nom de sa structure et pourquoi il est là, tous les autres vont faire pareil. S'il commence à décrire un projet, son projet associatif, le cœur du sujet, tous les autres vont faire pareil. S'il dit juste « Oui, bonjour, je suis Quentin, je suis père de trois enfants, etc. » tous les autres vont faire pareil. Et donc, en fait, en général, alors ça, même si tu évites la table, tu n'éviteras pas ça. Mais du coup, je trouve aussi que ça induit tu te présentes comme les autres attendent que tu te présentes et non pas ce que toi, tu as envie de dire. Quoi. En général, tu te présentes par ton nom, ta mission et...
Ouais,
ce que je trouve un peu trop
Le, ouais, mais le rôle de l'animateur à ce moment-là, c'est quand c'est toujours la même chose qu'il redit, parfois il peut redire, mais vous avez le droit de dire autre chose. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant à ce truc-là pour pouvoir repréciser.
Tu peux aussi demander que les gens préparent, donner un petit temps de.
Ouais, mais c'est. Ouais, dans le non-tour de table, quand la première personne-là, a priori les gens sont plus habitués, mais en général il y a un silence de mort pendant 3-4 minutes, les gens réfléchissent. On le dit pas, mais les gens le font d'eux-mêmes. Et à un coup, il y a des choses qui ont commencé. Bon voilà, c'est pour ça que je...